Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 10. Et notre premier titre, c'est le vrai caractère du disciple. La Bible nous dit dans Saint Matthieu chapitre 16 verset 24, alors Jésus-Christ dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus-Christ indique quatre caractères essentiels du disciple. Tout d'abord, la loyauté absolue à la vérité et l'approfondissement perpétuel de la connaissance qui donne la liberté morale et spirituelle. Primo, nous avons donc « si vous demeurez dans ma parole, est-il dit, et que vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Saint Jean, chapitre 8, verset 31. Secondo, un second caractère est l'amour que nous portons aux autres, car il est dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile de Saint Jean, chapitre 13, verset 35. Et tierso, donc le troisième caractère qui nous est fourni, est la sainteté véritable qui porte du fruit. Car il est dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 8. Mais le vrai caractère du disciple, celui que le Seigneur Jésus recherchait pour lui-même tout d'abord, est de nous voir renoncer à nous-mêmes et de nous charger de notre croix pour le suivre. Quand nous défendons la vérité révélée de toutes les forces de notre pensée et de notre plume, quand nous gardons jalousement les paroles de Christ, quand nous faisons montre d'amour, oui, que nous montrons que nous avons de l'amour fraternel de la façon la plus émouvante, et quand nous abondons en toutes sortes de grâces excellentes, si nous ne prenons pas notre croix, eh bien, nous ne sommes pas tellement les disciples de Christ, même pas du tout. Voyez-vous, les Écritures ont trois mots pour exprimer d'une manière particulièrement expressive les expériences les plus profondes et les plus douloureuses de la vie religieuse. Ces trois mots introduisent les différentes épreuves, les douleurs ou devoirs qui viennent obscurcir nos cœurs et font monter jusqu'à nos lèvres des cris de détresse et même de souffrance. Ces trois mots sont fardeau, écharde et croix. Je répète, fardeau, écharde et la croix. Par le mot fardeau, l'Ancien Testament comme le Nouveau désigne tous les soucis et les obligations qui découlent inévitablement de notre vie terrestre et matérielle. Il évoque pour nous tout ce qui nous rend l'existence pesante et les étapes de la vie lourde et harassante. La routine lassante des devoirs quotidiens, les obligations qui nous épuisent, soit par leur monotonie ou soit par leurs difficultés, les responsabilités qui ébranlent nos nerfs et remplissent nos cœurs d'angoisse et de tristesse, les douleurs de notre solitude et notre isolement, de notre pauvreté ou de nos désappointements, ainsi que les faiblesses et les impuissances de la vieillesse. Oui, les douleurs que nous procurent les péchés, n'oublions pas, et que nous avons commis. Leurs conséquences du reste et le souci qu'elles nous causent, tous ces fardeaux peuvent être supportés fermement et acceptés avec sérénité si seulement nous les confions au Seigneur et nous laissons réconforter et soutenir par sa parole et par sa grâce. Et nous avons les échardes. Les échardes évoquent une expérience plus douloureuse et plus intime encore, et désignent toujours une épreuve particulière et qui généralement n'appartient qu'à nous. Une infirmité, par exemple, qui nous humilie, une impuissance à faire telle ou telle chose qui nous mortifie, une faiblesse qui est pour nous une source de souffrance parce que elle ne nous qualifie pas pour tel ou tel travail que nous aurions aimé, tellement aimé faire. Ça arrive. Ce mot souligne quelques événements tragiques de notre famille, peut-être quelques détresses secrètes de notre âme ou de notre corps, quelques afflictions intimes qui fait souffrir celui que nous aimons le plus, quelques hontes secrètes que nous ne voudrions pas voir connues de nos plus proches. Cette écharde dans la chair peut être souvent inconnue, elle peut être inconnue, et de tous ceux, bien entendu, qui nous voient vivre, et il se peut même que seuls des regards exercés soient capables de les entrevoir. Elle a ce caractère bien particulier que nous ne le nommons jamais. Et l'apôtre Paul, il pouvait parler de l'écharde qu'il portait en sa chair, mais il ne dit jamais ce dont il s'agissait vraiment. Luc peut l'avoir compris, mais lui-même ne nous dit pas exactement ce dont il s'agissait. L'écharde qui nous déchire peut ne pas être cachée, et les hommes peuvent la connaître, mais nous ne voulons jamais qu'ils en parlent avec nous, car la seule mention qu'on peut en faire suffit à nous déchirer jusqu'au plus profond de notre être. Oui, l'écharde dans la chair doit être acceptée par la puissance de la grâce de Dieu qui agit en nous. Son sens et sa portée ne nous apparaissent pas sur le moment, mais nous les découvrirons par la suite. Le troisième mot, c'est la croix. On confond trop souvent le fardeau et l'écharde avec la croix. Les hommes parlent comme si leur travail quotidien, les soucis et les difficultés de la vie, les tristesses que leur procure leur égarement, les empêchements que leur procure leur faiblesse ou leur péché, constituent en effet notre croix. La différence est cependant bien sensible. Le fardeau et l'écharde sont universels et inévitables. Chaque homme doit porter son propre fardeau et chaque homme a son écharde dans la chair. Certaines sont bien entendu moindres que d'autres, mais elles sont toutes suffisamment aiguisées pour se faire sentir dans la chair tendre et bien fragile. L'un et l'autre sont donc inévitables. Mais la croix, elle, n'est pas universelle et peut être évitée. Beaucoup d'hommes et de femmes ne connaissent jamais ce qu'est une croix. Les hommes peuvent refuser, et beaucoup le font. Il y a beaucoup de vies d'hommes et de femmes qui se sont enfoncées dans le plaisir et qui, du berceau à la tombe, ne connaissent et ne connaîtront jamais la croix. Il y a des hommes et des femmes obscurs et inconnus qui ont contrôlé leur vie avec une telle prudence, un tel soin et une telle sagesse humaine qu'ils n'ont jamais eu ni le temps ni l'idée de prendre leur croix. Ils ont donc vécu une vie de douce satisfaction personnelle. La grande tragédie spirituelle de beaucoup qui ne sont pas disciples de Christ se trouve dans ce fait qu'ils ont refusé la croix le jour où elle s'est présentée devant eux. Ils n'ont pas voulu la prendre. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, cette vérité nécessaire nous est clairement enseignée par l'exemple même de notre Sauveur. Jésus-Christ avait son fardeau, les évangiles nous le font bien souvent comprendre, soumission à des parents humains, humble travail de charpentier dans l'atelier de Nazareth, pauvreté au foyer, et plus tard, sa fatigue et sa lassitude, la faim et la soif, le mépris dont l'abreuvaient les riches, les puissants et les gens prospères, telles étaient quelques-unes ou quelques-uns des fardeaux qu'il a connus comme tous les autres hommes et femmes. Donc Jésus-Christ a aussi, croyez-moi, connu l'écharde dans la chair. Et comment ? La simple pression du monde maudit, l'horreur du péché qu'il côtoyait à chaque pas, était sans doute pour l'exquise et absolue pureté de sa merveilleuse nature une écharde dont nous avons de la peine à mesurer toute la réalité. Mais comment pourrions-nous comprendre la lancinante ou lancinante douleur que lui causait l'absence de son Père, car sa chair voulait non seulement sa divinité au regard des hommes, mais lui dérobait même la pensée de son Père. Oui, l'écharde de Jésus-Christ était vraiment permanente. Elle ne pouvait cesser qu'avec sa vie, et ce n'est qu'en se livrant lui-même à la mort qu'il a pu satisfaire cette soif et cette faim qui furent les siennes pendant sa carrière terrestre, soif et faim de contempler à nouveau le visage de son Père bien-aimé. Mais Jésus-Christ avait aussi sa croix, et comment ? Il s'en est chargé alors qu'il aurait pu, à tout moment, ne pas l'accepter ou carrément la déposer. Il l'a gardée tout au long de son ministère. Lors de son baptême, il en a chargé ses épaules lors de la tentation. Il l'a assujettie sur ses épaules, oui, avec des grosses cordes. Tout au long de sa vie, elle a été le fardeau invisible qui ne le quittait jamais. Dans le jardin de Gethsémané, il aurait pu la rejeter loin de lui, et il aurait pu alors s'entendre, par exemple, avec Caïphe, s'asseoir à la table d'Hérode, et de devenir l'hôte considéré et très apprécié de la maison de Pilate. Sa croix était donc cette vie et cette mort pour le péché qu'il était venu manifester ici-bas et parachever par son sacrifice suprême. Votre croix est quelque chose que vous pouvez accepter ou refuser. C'est peut-être un fardeau spécial qui vous est confié de veiller sur les autres. C'est la soumission à autrui que vous pouvez ne pas accepter. C'est peut-être une limitation ou une pauvreté particulière que vous pouvez très bien abandonner en sacrifiant l'idéal de vie qui est le vôtre. C'est peut-être telle ou telle participation à la vie d'autrui qui vous empêche de vous épanouir dans les directions que vous auriez vous-même choisies. C'est peut-être un mode de vie simple et humble dont vous pourriez sans peine éviter les difficultés et les privations. C'est peut-être aussi l'acceptation silencieuse d'un devoir contraignant et douloureux, ou l'abaissement volontaire d'une position élevée à une tâche plus humble et plus efficace. Plus humble, oui, et plus efficace, mais peut-être, je voulais dire, surtout, pourquoi pas, même effacer. Oui, une tâche peut être aussi humble et effacée. Et c'est peut-être, voyez-vous, l'abandon d'une situation matérielle prospère qu'un seul mot de votre part aurait pu conserver. Donc vivre chastement dans un monde rempli d'impureté et de luxure, se montrer juste et aimant envers ceux qui vous bafouent et vous tournent même en ridicule, se préoccuper de la gloire de Dieu par-dessus toute chose, abandonner toute volonté personnelle sur l'autel de Jésus-Christ et le suivre absolument partout, quel que puisse en être le prix. Voilà quelques aspects, chers amis, que la croix peut revêtir pour chacun d'entre nous. Christ est aussi celui qui nous apprend tout ce que nous avons besoin de connaître concernant la croix. Il nous révèle aussi tout ce que nous savons d'elle. L'histoire de la croix se révèle à nous tout au long de sa vie et nous en voyons l'illustration vivante dans sa mort. Il a résumé tout l'enseignement de la croix dans le verset que nous méditons maintenant. il l'avait prononcée sans attendre d'en faire l'expérience douloureuse, au début même de son ministère qui allait se dérouler tout entier à l'ombre de ce sacrifice tragique. Il l'avait prononcé en pensant à ses disciples dont il savait par avance qu'ils se trouveraient eux aussi devant la vocation qui était maintenant la sienne, se charger de la croix ou refuser tout simplement ses exigences. Lorsque nous suivons les suggestions de notre texte, nous constatons que se charger de sa croix commence par un acte volontaire bien précis. Il commence à l'heure même où, dans les profondeurs de notre être et de notre volonté, nous prenons la décision de suivre Christ. Nous nous engageons dans cette expérience dès l'instant que nous choisissons le chemin étroit. Et l'autre chemin nous montre la gloire du monde, ses facilités de toute nature, sa vie dépourvue de préoccupations spirituelles et de sacrifices volontaires. Sur l'autre route, la croix profile dès l'entrée son ombre menaçante. Tous les jours survient, oui, on peut dire tous les jours, va donc survenir quelque nouvelle forme d'épreuve, et on nous demande telle ou telle forme de témoignage, on nous impose même telle ou telle responsabilité ou tel fardeau. À chaque instant, le choix s'impose entre la volonté propre et l'autel du sacrifice à cause de Jésus-Christ. Et nous sommes invités par Dieu à repousser telle ou telle tentation, à refuser les possibilités qui s'offrent à nous et d'agrandir nos possessions humaines et de monter dans l'estime, surtout de monter dans l'estime des hommes, pas seulement de montrer aux hommes, mais voyez-vous, nous cherchons souvent leur approbation. Et c'est là le problème. L'exemple le plus dramatique que nous rapporte le Nouveau Testament est certainement celui, par exemple, du jeune homme riche. Vous connaissez cette histoire. Il est venu vers Christ à l'heure où il désirait vivement le suivre. Mais il rencontre aussitôt sa croix, et ceci sous la forme de l'abandon complet des biens de ce monde qui constituaient la véritable joie et toute la gloire de sa vie. Il n'a pas voulu se charger de sa croix et il est sorti de la vie de Christ et de son influence pour jouir de la, on peut dire, de la pourpre et des vêtements fins, du luxe, pour s'y complaire et pour finir ses jours dans un état moral bien au-dessous de ce qu'il était lorsqu'il avait voulu suivre Christ. Et combien méprisable, on peut le dire, par rapport à celui qu'il aurait pu atteindre s'il avait voulu vraiment suivre le Seigneur. Donc cet acte décisif est quelquefois celui de la conversion même. Il se présente quelquefois à nous sous la forme claire d'un appel précis à suivre Christ et à le servir. Mais Il se cache souvent sous des formes plus subtiles, moins attrayantes ou qui nous paraissent de moindre importance. Accepter une épreuve, une difficulté ou un devoir à cause de Christ, c'est seulement lorsque, voyez-vous, nous sommes capables de dire « qu'il me soit fait selon ta parole » que nous avons commencé à porter notre croix. Il ne faut jamais oublier que porter sa croix est une expérience continuelle qui se renouvelle chaque jour. Nous en sommes tous venus un jour à souhaiter que la croix puisse se transmettre à une autre personne et surtout pas sur moi. Nous avons quelquefois cru que toute notre souffrance et notre douleur s'arrêteraient d'un seul coup. Nous avions pris une décision si ferme et nous avions tellement orienté nos pensées vers la croix que nous avons peut-être pensé que le chemin qui mène à Jérusalem était un chemin aisé. L'une des tentations les plus subtiles de la religion catholique est de suggérer que la première acceptation de la croix est définitive et décisive. L'Église romaine demande à ses serviteurs de faire un grand choix. Elle demande aux jeunes moines de prononcer ses vœux et d'entrer au couvent, si bien qu'il ne peut désormais même plus regarder le monde qu'il a abandonné. Elle appelle les nonnes à prendre le voile et à se cloîtrer loin du monde. Franchir ce stade, abandonner tout ce qui est le plus cher et le plus profondément enraciné dans le cœur d'une femme, pour devenir l'épouse de Jésus-Christ, semblerait réduire toute la vie à n'être et à ne dépendre que d'un seul choix. Mais prendre sa croix ne peut commencer et finir dans un acte unique, encore moins dans le même acte. Ni le cloître, ni le couvent, ni les heures de prière répétées ne peuvent empêcher l'âme des hommes et des femmes de faire tous les jours l'expérience de la croix. Le monde est aussi présent dans la cellule du moine, que sur les places de nos villes ou des chemins de nos campagnes. La tentation assaille le reclus autant que le jeune homme qui se promène dans les rues d'une ville corrompue. Au matin de chacune de nos journées, nous sommes une fois encore conviés à charger la croix sur nos épaules et à la porter tout au long de la journée. Il y a deux raisons à cela. La vie, en effet, n'est pas d'une parfaite immobilité, et c'est la première raison. Nous passons constamment d'une circonstance que nous connaissions et ou que nous connaissons imparfaitement à une autre que nous ne connaissons pas du tout. Et nous nous trouvons sans cesse donc devant des situations changées, des problèmes nouveaux et des tentations, on peut vraiment dire des tentations qui sont nombreuses jusqu'ici, parfois même inconnues, par nous. Et l'année dernière, par exemple, vous avez pu accepter l'humilité, le dépouillement et l'appauvrissement de vos circonstances, et c'était là votre croix. Et vous avez ajusté votre vie à la mesure de votre épreuve, si bien que personne ne s'est aperçu de la croix dont vous étiez chargé. Mais cette année, eh bien, vous avez à faire face, peut-être, à une épreuve encore plus dure. Et c'est un devoir qui va éprouver votre corps et votre esprit. Vous pouvez à tout moment l'éviter par un simple mot qui vous introduira dans une vie dont vous seriez davantage flatté. Et chaque année, chaque jour amène une croix nouvelle dont vous n'avez encore jamais fait l'expérience, et c'est ainsi qu'il vous appartient de faire un choix quotidien. Oui, la seconde raison, chers amis, c'est que tous les jours, notre caractère évolue et notre idéal peut se modifier. Nous croissons dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous atteignons des plans supérieurs dans le domaine de la pensée et du sentiment. Nos consciences deviennent plus sensibles et plus exigeantes. L'obéissance que nous avons jusqu'ici rendue à Dieu ne nous satisfait plus. Et nous avons jadis refusé telle ou telle forme de notre croix parce que nous ne pensions pas que ce soit Jésus-Christ qui nous la présente. Mais maintenant, nous comprenons mieux et nous l'acceptons volontiers parce que nous y avons vu la volonté de notre Père pour nous. Jésus-Christ a vécu dans l'obscure bourgade de Nazareth. Il a supporté pendant les jours de sa jeunesse des années de médiocrité et de limitation. Ensuite, lorsqu'il s'est mis à parcourir la Galilée, sa croix est devenue plus lourde. Son poids n'a fait qu'augmenter jusqu'à l'heure suprême où elle a pris tout son sens et a pesé sur lui de tout son poids maudit. Comme lui, nous sommes appelés à faire l'expérience d'une croix dont le poids et l'intensité augmentent chaque jour au fur et à mesure que nous réalisons la parfaite volonté de Dieu pour nous, jusqu'au jour de notre mort. Il est dans la pensée du Seigneur que nous portions notre croix. Nous ne pouvons porter notre croix que dans la mesure où nous suivons Jésus-Christ. Qu'il renonce à lui-même, déclare le Seigneur. Tel est le premier acte bien précis. Qu'il se charge de sa croix, ajoute le Seigneur, pour indiquer qu'il s'agit là d'un exercice quotidien et qu'il me suive. Voilà donc le secret de la continuité et de la réussite. Nous sommes peut-être capables, dans l'exaltation d'une heure de communion particulièrement intime avec Dieu, de prendre la croix et de faire quelques pas en la portant. Mais les heures de la vie qui usent et dépriment, les années qui passent, les difficultés qui renaissent sans cesse devant nos pas, ont vite fait de mettre à l'épreuve notre bonne volonté naturelle et, insensiblement parfois, nous déposons malheureusement notre croix. Mais lorsque nous suivons Christ pas à pas, il nous soutient à chaque instant. Et alors même que nous sommes las, que nous en avons marre et que nous aimerions tenter d'abandonner notre fameux fardeau, eh bien, il nous donne la force de son exemple et le secours de son esprit qui nous aide à nous charger tous les jours de notre croix pour marcher sur ses traces dans le chemin de la solitude, de la privation et du dépouillement, oui, dans le chemin austère qui est celui de la sainteté. Quelles seront les conséquences de notre acceptation de porter la croix? Elles seront à notre mesure les mêmes que celles qui ont suivi la croix de Christ. Il a accepté la croix afin de sauver les hommes et les femmes, et nous portons aussi notre croix afin d'être des pécheurs d'hommes. Il y a dans les épîtres de l'apôtre Paul une parole suggestive. Achevons en mon corps ce qui manque aux souffrances de Christ. Et portant notre croix, dit-il, nous obtenons les bénédictions supérieures d'une vie plus pure, d'un caractère plus sanctifié, d'une vision de Dieu plus parfaite, d'une ressemblance avec Christ plus accusée. Mais plus que ces bénédictions qui sont répandues sur nous, nous devenons participants de l'œuvre de notre Seigneur. Nous ne voulons pas dire que ce soit nous qui contribuons à la rédemption du monde. L'œuvre de Christ est unique et la nôtre est d'une nature tout différente. Nous ne sommes pas appelés à être des Christs dans ce sens-là, car aucun homme ne peut offrir sa vie ou ses souffrances pour les péchés de son frère. Mais en portant notre croix, nous pouvons devenir des canaux, les canaux d'une bénédiction supérieure pour tous ceux qui nous entourent. Oui, celui qui dans les affaires refuse un bénéfice contraire à la loi de sa conscience révèle un aspect de la personne de Christ à celui avec lequel il traite ses affaires. La femme qui accepte la vie de renoncement et de dépouillement est un interprète de ce que Christ veut dire à toutes celles qui vivent en ne pensant qu'à elles ou à leur satisfaction matérielle, si légitime soit-elle. Oui, personne ne porte sa croix sans contribuer à alléger la souffrance d'autrui, sans aider à prévenir telle ou telle manifestation du péché, sans fortifier les faibles, sans accroître la foi de quelqu'un, sans repousser les tentations de l'orgueil chez autrui, et tout cela sans cesser de manifester d'une manière pratique la grâce et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que les hommes découvrent la croix sur les épaules de l'un des disciples du Maître, et loie le Seigneur lui-même. Chaque fois que, d'une manière tout simple et très humble, nous acceptons la croix qui nous est proposée par Dieu, nous sauvons une vie de la souffrance et du péché, nous empêchons la chute de celui qui est tenté, nous arrachons une âme à la puissance des ténèbres. Seuls les hommes et les femmes qui ont porté leur fardeau, accepté leur écharde et sont capables, ils sont capables de se charger aussi de leur croix. Chers amis, notre deuxième étude ou message, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans la Bible, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Évangile de Luc, chapitre 15, verset 4. Plus j'étudie les évangiles, plus je suis profondément impressionné par la persuasion dont le Seigneur s'est usé. Il est le moins dogmatique de tous les maîtres, le plus patient de tous les commentateurs, le plus aimable des controversistes. Tous ceux qui examinent ses paroles sont étonnés, comme le furent du reste les habitants de Nazareth, des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Bien des fois, le Seigneur affirme son autorité souveraine et divine par ses seules paroles. En vérité, je vous le dis. Souvent, il cite tel ou tel passage de l'Ancien Testament dont il se sert pour porter la confusion dans le camp de ses adversaires, le faisant précéder d'un « n'avez-vous jamais lu ?» Que de fois, enfin, cite-t-il quelques proverbes bien connus, comme avec un sourire, « la sagesse est justifiée par ses enfants ». Mais lorsque nous considérons en lui le prédicateur, il apparaît nettement que c'est la persuasion dont il enveloppe ses pensées qui est l'une de ses caractéristiques les plus importantes. Et c'est pourquoi il fait constamment appel au cœur humain. Il se réfère sans cesse à l'homme et à ses façons d'agir, à ce qu'il fait de plus élevé et de meilleur, pour expliquer et justifier les voies de Dieu. Quel homme d'entre vous, voilà qui condense tous ces appels aux hommes. Je répète, quel homme d'entre vous, voilà donc qui condense tous ces appels aux hommes. Et il invite ainsi les hommes à regarder en eux-mêmes et leur pose la question afin de connaître ce qu'ils feraient ou penseraient de mieux sur le problème qu'il leur propose. Ce que le berger ferait pour sa brebis perdue, ce que la femme ferait pour son argent égaré, Christ le fait et même plus encore. Mais il ressort d'une manière évidente que Dieu agit tout comme un homme qui, ému par la pitié ou la crainte de subir quelque préjudice, se dépenserait pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus-Christ fait appel à ce jugement de ses contemporains en trois circonstances particulières. Tout d'abord, dans le sermon sur la montagne, lorsque il enseigne à ses disciples comment prier. Il termine son message par ces mots. « Lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ?» Et affirme que Dieu fera pour ses enfants infiniment plus que ce ne sont prêts à faire les meilleurs des pères selon la chair. Il enseignait une autre fois dans la synagogue, et parce que il avait pris la liberté, un jour de sabbat, de laisser ses disciples ramasser des épis de blé sur le bord du chemin et d'en manger les grains. Ses auditeurs se méfiaient de son enseignement. Or, il avait dans cette synagogue, il y avait un homme à la main sèche. Et tous ceux que la jalousie dressait contre lui attendaient avec une curiosité hostile ce qu'il allait faire en cette occasion. Ils lui posèrent la question « Mais est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Encore une fois, il répond en faisant appel à leur cœur « Mais lequel d'entre vous, s'il a une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne descendra pas dans la fosse pour l'en retirer ?» Telle est la façon dont Christ défend la providence de Dieu. Une autre fois, il prenait un repas chez un publicain. Et voici le bruit couru parmi le peuple, que cet homme recevait les pécheurs et mangeait avec eux. Il était donc comme eux, puisqu'il se plaisait en leur compagnie. Voilà qui pouvait susciter contre lui la juste colère de ceux qui voyaient en lui un prophète. Mais Jésus-Christ, avec une parfaite persuasion, leur propose trois paraboles délicieuses qui répondent à leurs pensées et justifie devant leur conception charnelle des choses le plan rédempteur de son Père, tout simplement. Il dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdu jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Penchons-nous pour un seul instant sur la façon dont Christ prêche l'Évangile. Nous l'appliquerons à trois éléments particuliers de la vie chrétienne. C'est la prière, la providence et la rédemption. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas croire à la réalité de la prière et à celle des réponses à la prière. Pour beaucoup d'entre vous, je suppose, il arrive aussi d'avoir des doutes sur ce sujet. Nous savons tous que la difficulté de la prière se trouve encore accrue du fait que nous avons conscience de vivre dans un monde dont l'ordonnance est rigide et quasi inflexible. C'est pourquoi nous trouvons souvent que la prière est difficile à exercer, et c'est aussi la raison qui conduit les hommes vers la méditation. Mais cela n'a aucune comparaison avec la véritable prière qui, par l'Esprit Saint, nous met en communion avec Jésus-Christ. Nous avons tous connu, je pense, les effets déplorables de cette pensée. Lorsque nous nous agenouillons au chevet d'un malade pour demander à Dieu sa guérison et que nous sentons que l'ennemi nous souffle à l'oreille. « Oh, arrête, c'est inutile de prier Dieu. Il ne peut en aucun cas écouter des centaines de milliers de prières en même temps. Tu as aucun espoir d'être entendu, etc. » Ou bien c'est un de nos amis dont les affaires vont mal. Et lorsque dans votre désir de prier pour lui, vous évoquez les difficultés du négoce, la concurrence, le peu de demandes, les conditions du crédit et tant d'autres dures nécessités, la prière perd de son importance à vos yeux et vous en arrivez à penser qu'il faut, après tout, que les lois qui régissent les activités commerciales suivent leur cours. Vous priez aussi pour un ami qui est un crève-cœur pour ceux qui vous sont chers et peu à peu, au souvenir de son mauvais caractère, des passions sordides qui vous ont souvent choqué, des péchés d'hier et d'aujourd'hui qui le tiennent lié, vous vous sentez vous-même comme impuissant à prier comme vous désireriez le faire. Mais voici comment Jésus-Christ répond à votre problème et lui apporte une parfaite solution. Lequel d'entre vous, ayant un ami, ne se lèvera-t-il pas au milieu de la nuit pour lui donner ce dont il a besoin à cause de son importunité? Si donc vous êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père des cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que font les lois, les limites, les barres de fer, les prisons des habitudes ou des coutumes, les mauvaises pensées ou la volonté hostile des hommes, lorsque Dieu juge d'une chose et sage qu'il pense que cette chose-là est nécessaire, eh bien il est plein d'amour, car il emploiera précisément la loi, les circonstances et la volonté même des hommes pour accomplir ce qui paraissait impossible, impossible par-dessus toute autre chose. Et il apaisera la tempête par un seul mot. Il donnera du pain, et oui, il donnera du pain à ceux qui sont dans le désert, et il éteindra le feu de la haine et de l'hostilité. La façon dont la providence de Dieu s'exerce est souvent, Jésus-Christ le savait très bien, plus incompréhensible aux hommes que la réponse à la prière. Je répète, la façon dont la providence de Dieu s'exerce, elle est souvent, en Jésus-Christ, qui le savait très bien, bien plus incompréhensible aux hommes que la réponse à la prière. Car lui-même a toujours constaté qu'il n'était pas compris ou méconnu, ou encore plus souvent, il était même blâmé. Jamais peut-être il ne fut l'objet d'un blâme plus convaincu et plus personnellement intéressé que lorsque il employa sa puissance divine à rompre les ordonnances humaines que les générations avaient ajoutées à la loi de Dieu concernant le sabbat. Et cependant, Jésus-Christ n'était pas de ceux qui violent le jour du sabbat. Il en connaissait mieux que tout autre la valeur et appréciait ce repos et cette trêve voulue par l'Éternel, afin que l'âme puisse plus aisément se recueillir en présence de son Dieu. Personne ne respectait plus que lui la loi sainte de Dieu, et aucun juif n'a été plus scrupuleux dans l'obéissance aux lois qui régissent le sanctuaire de Jérusalem. N'avait-il pas dit de son père « Je préfère l'obéissance au sacrifice » Et c'est pourquoi, chaque fois qu'une œuvre de miséricorde et de divine providence devait être faite, il n'existait pour lui ni loi, ni coutume, ni prescription d'aucune sorte susceptible de l'arrêter à faire du bien, à exercer sa miséricorde. La rédemption de l'homme par Dieu est un mystère encore plus grand. Cependant, par sa parabole, même du berger qui part dans le désert, souvenez-vous, à la recherche de la brebis perdue, le Seigneur explique ce mystère annonçant sa venue en chair parmi les hommes. Tous les vrais, oui, tous les vrais croyants, tiennent pour absolument certain que Dieu était en Christ. Et cependant, la question se pose sans cesse à notre esprit, comment le Dieu Tout-Puissant et Infini a-t-il pu se borner lui-même et se limiter à de telles sortes de venir sur terre, que le Dieu de l'univers soit venu pour fouler les chemins poussiéreux de notre terre et de vivre de notre vie et partager toutes les afflictions de la race des hommes, eh bien voilà qui n'est pas simplement mystérieux, mais incroyable. Et c'est d'ailleurs l'une des déviations les plus dangereuses qui se soit présentée à l'esprit de l'homme. Mais qu'aurait fait, dans des circonstances semblables, l'homme le plus noble, le plus généreux et le plus pur? N'avons-nous pas vu des hommes et des femmes, pourvus de tous les avantages matériels, renoncer aux perspective de carrière splendide pour aller vivre une vie d'obscurité et de sacrifice par amour pour leur prochain. Rien ne semblait les préparer à pareil changement. Rien ne les attirait vers ces lieux de misère et de dépravation. Rien sinon l'amour, l'amour qu'ils portaient aux autres hommes, leurs frères et leurs sœurs. Pourquoi donc vouloir refuser à Dieu le droit de faire ce que tant d'êtres humains ont fait? Ce que l'homme a fait, Dieu peut le faire aussi, mais d'une manière si parfaite que les conséquences et la portée de ses actes sont et demeurent infinies. Contempler l'enfant dans la crèche, laissez parler les sentiments d'amour et de sacrifice qui sont en vous, et vous comprendrez alors le mystère de l'incarnation. La rédemption commence au moment où le berger laisse les 99 brebis pour aller jusqu'au désert à la recherche de la brebis perdue. Oui, plus tard, au cours de son ministère, Jésus-Christ reprit devant un auditoire plus apte à comprendre ses paroles, l'argument qu'il avait déjà avancé. Il reprend le même texte et l'explique en détail, et enfin, que tous comprennent, il met son propre nom dans l'explication et pousse l'analogie jusqu'aux conséquences les plus sublimes et les plus tragiques. Je suis, moi, le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il rappelle à ses auditeurs ce fait divers, simple et courant, cette histoire du berger qui, pour arracher la brebis qu'il aime au danger du précipice, et y tombe à son tour. Personne n'a jamais mis en question les sentiments du berger dans ses périlleux sauvetages, et personne n'a jamais douté de leur réalité. Et c'est précisément ce que Dieu a fait en Christ. Et c'est là l'évangile que Jésus-Christ est venu proclamer sur la croix. Christ a rencontré et vaincu l'ennemi qui s'attaque sans cesse au troupeau, mais il n'a pu sortir vainqueur de cette lutte qu'en y laissant sa propre vie. Et c'est toujours ce que les hommes et les femmes font ou souhaiteraient pouvoir faire. Que puis-je faire pour lui, pour elle ? Me dit un jour un père dont le fils avait été condamné à un an de prison. J'aimerais pouvoir faire à sa place cette année de prison, le préserver de la corruption qu'il rencontrera et du déshonneur qui s'attachera sans cesse à lui. Et il en est toujours ainsi, lorsque l'amour et le péché se rencontrent, il y a toujours, oui, toujours un sacrifice à payer. Si un homme désire sauver ses semblables, s'il fait tous ses efforts et qu'il consent tous les sacrifices pour détourner la malédiction qui frapperait autrui, s'il accepte de porter sa croix et se lamente de se voir si impuissant devant le mal, est-il tellement incroyable de croire que Dieu ait accepté de mourir pour acheter les siens? Tout ceci nous conduit à deux vérités importantes qui nous serviront de conclusion. L'homme est la plus haute révélation que nous ayons de Dieu. Eh oui. Et je répète, l'homme est la plus haute révélation que nous ayons de Dieu dans l'ordre de la nature et des êtres créés. Donc les cieux, racontent la gloire de Dieu, mais ils n'en donnent qu'une image confuse et incomplète, car les choses matérielles ne peuvent jamais révéler ce qui est spirituel. Même dans ses perfections et ses beautés les plus caractéristiques, il est des attributs de Dieu que la nature ne peut et ne pourra jamais nous révéler. On nous parle de la révélation de Dieu par l'histoire des hommes, mais on oublie que les âges qui se suivent déroulent devant nos regards l'histoire de l'homme encore plus que celle de Dieu. C'est l'histoire des passions humaines, de l'orgueil et de l'égoïsme. C'est celle des tentatives innombrables que l'homme a risquées pour s'approcher de la divinité, mais l'histoire ne donne pas une connaissance véritable de Dieu. On a dit aussi que la Bible est la révélation par excellence de Dieu. Certes, elle est une révélation plus tendre, plus directe, plus humaine que celle que nous trouvons dans l'histoire ou dans la nature. En lisant les psaumes, nous entendons encore la voix de Dieu et nous voyons ses pas dans les expériences des pénitents de la Bible. Nous entrevoyons les traits de son visage en contemplant Jésus-Christ. Mais la Bible n'est pas la révélation suprême de Dieu. On ne la trouve que dans le cœur humain. Lorsque celui qui aime abonde en dons généreux, lorsque un prophète a la vision de son devoir et se dresse pour annoncer à son peuple un message conforme à la justice et à la vérité, lorsque un père ou une mère savent s'abaisser et se sacrifier pour sauver la vie de leur enfant, nous avons la plus complète des révélations que nous pouvons avoir de Christ. Et c'est pourquoi la connaissance de la gloire de Dieu resplendit sur la face de Christ. En nous penchant sur l'histoire qui conduit de la crèche à la croix, sur le bébé de Bethléem, sur l'homme qui était connu comme le charpentier de Nazareth et sur le prophète à Jérusalem, ainsi que sur la victime du calvaire, nous comprenons la personne de Dieu en le voyant révélé dans celui qui a donné sa propre vie en sacrifice pour nous. Chers amis, avez-vous déjà pensé à la honte et la douleur qui s'attachent aux souvenirs du passé, les pensées mauvaises, les imaginations coupables, les choses de toute nature qui s'opposent à notre vie de prière seront balayées? Oui, toutes nos aspirations pour une vie sainte, une pensée pure, une imagination sans souillure seront heureusement un jour réalisées, gloire à Dieu. Et notre cœur en ce jour-là sera semblable à celui que Dieu a formé en Christ lorsque il l'envoya sur notre terre. Il est des hommes et des femmes qui déclarent que l'évangile de Christ se trouve dans les immortelles paroles du sermon sur la montagne et dans les paraboles que nous rapporte l'évangile de Luc. D'autres déclarent que l'apôtre Paul, avec son esprit formé par la pensée rabbinique, a imaginé un évangile du sacrifice pour le péché. Il nous suffit, chers amis, de relire les paroles de Jésus-Christ à la lumière de sa vie et de sa mort pour comprendre que son évangile n'est autre que la bonne nouvelle du salut par l'amour qui est mort. Donc Jésus-Christ est mort pour la rédemption de tous les hommes et de toutes les femmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, avant de terminer par la prière, je voudrais vous donner quelques paroles qui me sont venues dans l'esprit. Une fois, hier peut-être, tu as découvert que Dieu a exaucé ta prière, qu'il t'a secouru dans ta détresse, qu'il t'a conduit sain et sauf au travers de toutes tes souffrances? Une fois peut-être, était-ce hier, tu as découvert que dans ta grande tristesse, il t'a consolé. Il n'a pas permis que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Penserais-tu que le Dieu d'hier n'est pas le même aujourd'hui? Crois-le, car si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu, ton Père céleste, est aussi le même d'éternité en éternité. Aujourd'hui aussi, il prendra soin de toi. Aujourd'hui aussi, il t'éprouvera pas au-delà de tes forces. Aujourd'hui aussi, il te portera au travers de tout. Si tu retiens cela avec une ferme confiance, tu surmonteras toutes les difficultés dans la foi en celui dont la puissance et l'amour restent les mêmes aujourd'hui. Prions maintenant. Père céleste, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Accorde-nous la vraie candeur, la véritable candeur et une humilité d'enfant. Préserve-nous de l'hypocrisie, de la propre justice, des complaisantes illusions. Aide-nous à livrer courageusement, avec patience et fidélité, le combat qui nous est imposé. Donne-nous de regarder toujours à celui qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui, doux et humble de cœur, a combattu le bon combat et a été reçu dans ta gloire. Amen. Et, chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, à ces messages. Et à bientôt à nouveau, je l'espère de tout mon cœur. Au revoir.